Seigneur, on te demande de continuer de toucher nos cœurs, de nous parler, de nous instruire, de nous conduire, et que nous puissions prendre conscience toujours plus de ta vie en nous pour lui laisser toute la place et puis qu'elle puisse nous transformer. Amen. Voilà, vous avez reçu pour la plupart d'entre vous, je pense, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, puisqu'on l'a lu à l'Assemblée Générale, mais on l'a envoyé par mail. On a essayé de mettre sur un petit papier comme ça, assez courtement, ce qu'on visait pour l'année à venir. Hein. Et puis, il y avait deux phrases qui étaient particulièrement importantes au milieu, et l'une d'entre elles disait « On veut toujours plus dans cette année qui arrive, passer du faire au laisser faire la vie de Dieu en nous. Hein. » Et puis, il y avait une autre citation d'un monsieur Schwartz qui dit « De considérer la vie chrétienne comme le chemin sur lequel on consent à laisser toujours plus de place à Dieu. » Je paraphrase un petit peu, mais c'est ça. Et donc, c'était un petit peu ma méditation de ces dernières semaines. Et puis, on a eu aussi la visite mercredi soir pour nous d'un monsieur qui a été mandaté par l'Association de l'Action Biblique pour faire le tour de toutes les églises, pour rencontrer les responsables. Alors, on l'a vu avec Marc et Mathieu. Il y avait Pierre-Alain Etienne aussi, mercredi soir. Puis, il nous a posé pendant 2 heures des questions. Parce que lui, il était mandaté pour faire un petit peu comme un audit ou un état des lieux, mais avec une idée bien précise qui est la croissance des églises. Pourquoi les églises ne grandissent pas? Ce monsieur a eu le privilège de vivre dans des églises à l'est de Paris, vers là où il y a Disneyland, hein, d'implanter des églises qui ont énormément grandi, quoi. À une quinzaine d'années, il a implanté 3 églises, et puis chaque fois il devait partir parce qu'il y avait 300 personnes, 500 personnes, 600 personnes. Ils ont commencé une autre de nouveau, 300 personnes, 500 personnes, 600 personnes, etc., etc. Donc il s'est un peu spécialisé dans le sujet. Maintenant, il est à la retraite presque. Alors en disant que c'était pas, bien sûr, on peut pas faire du copier-coller, mais qu'il y avait des principes qui, etc. Alors il nous a partagé là-dessus, puis ça m'a encore fait réfléchir à ce qu'on vivait. Et puis il y a des choses qui étaient intéressantes dans ce qu'il a dit, des choses que je ne partage pas personnellement forcément, mais c'est bien de toujours pouvoir réfléchir. Et en pensant à tout ça et comment on grandit, je repensais à ce qu'on avait donc exposé dimanche dernier sur grandir en laissant Dieu faire les choses en nous. Hein. Et une des choses qui nous avait interpellé quand on a eu cette réflexion avec Mathieu et Marc, c'était le fait que laisser faire Dieu, ce n'était pas rester sans rien faire. Quand on entend laisser faire, on peut penser à cette pensée très courante actuellement, laissez-vous aller, lâchez prise, et puis laissez les choses venir comme elles veulent. Et en fait, c'est tout à fait le contraire. Parce que autant notre nature personnelle que le monde dans lequel on vit, tout nous pousse à ne pas laisser faire Dieu. Donc laisser faire Dieu, c'est faire violence à la pensée qui nous entoure et à nous-mêmes. Donc il faut bien comprendre que laisser faire Dieu, c'est pas juste dire bah, nous en fait on reste couché, on va à la pêche, on dort et puis Dieu fera ce qu'il veut. Puis s'il se passe rien, eh ben c'est que Dieu l'a pas fait. Hein. Vous connaissez la blague sur nos amis corses, hein, qui sont couchés sous un pommier, et puis les gens passent, ils disent « Qu'est-ce que vous faites ?»« Ben, c'est la cueillette des pommes. »« Ah bon ? » ?»« Eh oui, et comment vous faites ?»« Eh, on attend que le vent il secoue les branches et que les pommes tombent. »« Ah bon ? » ?»« Et s'il n'y a pas de vent ?»« Eh, c'est une mauvaise récolte. » Hein ? Voilà. Donc, laisser faire Dieu, ce n'est pas la foi corse où on dit « Vous savez, moi, je ne prie pas parce que Dieu sait ce qu'il veut faire, je ne lis pas ma Bible parce que Dieu la connaît. » Je n'ai pas besoin de rencontrer les chrétiens parce que je sais qui c'est déjà. Hein. Et puis si Dieu veut faire quelque chose, il le fera. Et puis s'il ne se passe rien, c'est une mauvaise récolte. Hein. C'est que Dieu ne l'a pas fait. Donc ce n'est pas du tout de ça qu'on parle. Au contraire, si on lit le Nouveau Testament, on voit que Paul a un vocabulaire qui est à l'opposé de ça. Il dit « je cours, je traite durement mon corps, je m'assujettis moi ». Donc il y a une idée de combat violent, mais en même temps, comment on peut faire fonctionner les deux ensemble, hein. Se battre pour rien faire, hein, ou pour laisser Dieu faire. Hein. Et voilà, donc c'était un petit peu la réflexion que j'ai en ce moment par rapport à notre vie communautaire et puis à moi-même, hein. Et avant d'aller un peu plus loin dans le sujet, une question. À votre avis, quelle est la chose qui nous a été le plus volée dans les 50 dernières années et qu'on trouve le plus difficilement maintenant dans la vie de tout le monde? Alors, le temps, ouais, c'est lié, mais le silence. Le temps et le silence, ou du temps silencieux, on pourrait dire. Et c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Parce que le temps et le silence sont deux choses absolument indispensables pour la vie du croyant. Or, maintenant, nos vies, et moi le premier, hein, je me lève et je mets la radio sur mon attel, et puis je prends la voiture et je mets l'écouteur. Non, on n'a pas le droit. Je mets la radio. Et puis. Parce qu'on occupe tout ce temps, tout le temps, hein. Et puis on voit des gens qui marchent ou qui courent, mais ils ont un casque sur les oreilles, même quand ils marchent dans la nature. Et puis on rentre à la maison, on allume la télé, l'ordinateur, la radio, et puis le téléphone, et donc, la question n'est pas que les choses individuellement soient mauvaises, hein. C'est super d'écouter de la musique, c'est super de se tenir informé, c'est bien de regarder, etc. Toutes ces choses-là sont bonnes en soi, mais si la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de temps silencieux dans nos vies, ça devient très compliqué. Et du coup, les chrétiens arrivent dans leur vie chrétienne et dans la vie d'église, et comme il n'y a rien à l'intérieur, il faut les occuper à l'extérieur. Une des théories de ce monsieur-là, qui n'est pas fausse, hein, mais c'était que une église qui remplit ses bâtiments, s'il était là ce matin, il nous dirait, il vous faut déménager. Nous, on sait qu'on est rarement autant nombreux. Hein. Mais une des théories qu'il a mis, pour lui, qui est systématique, c'est que quand un bâtiment est plein à 80%, une église grandit plus. Hein. Ce qui peut être vrai dans certains cas. Puis il dit, mais c'est super, parce qu'en fait, quand vous avez un projet de construction, nous, en fait, quand on arrive dans un nouveau bâtiment, au bout d'un an, on commence le projet pour le prochain. Puis il nous dit, c'est super parce que ça tient les gens motivés et occupés. Puis moi, j'avais l'impression d'assister à un cours de, comment ça s'appelle, les gens de management, mais surtout les gens qui travaillent dans l'immobilier, là, de promoteurs immobiliers, quoi. Alors oui, tenir les gens occupés avec un projet immobilier, c'est super, hein, parce qu'on dit, oui, mais c'est pour Dieu, le bâtiment. Effectivement. Mais non, c'est pour nous, c'est pas pour Dieu. Hein. Alors, on peut avoir besoin d'un bâtiment et construire ensemble, c'est super. Et puis passer du temps à le faire ensemble, c'est bien. Hein, dans certains cas, il faut le faire. Moi, je l'ai fait dans le passé, j'ai trouvé ça super. Passer des nuits à repeindre avec des amis, et puis ça crée des liens. Mais si c'est pour cacher le fait qu'il n'y a rien d'autre, c'est dommage. Et j'ai paraphrasé un auteur que j'aime beaucoup. Je ne vous dis pas qui c'est, vous allez deviner. Et je vous lis un petit peu. C'est une chanson, hein, mais je ne chanterai pas. Il parle tellement qu'il trouve que je parle pas beaucoup. Alors il croit que je suis triste. Mais si je mettais mon cœur là, au milieu de la piste, ils verraient des couleurs, ils savent même pas qu'elles existent. C'est pas le courage qui me manque, qui m'empêche de sourire. Il y a des moments tellement beaux, il y a que le silence pour le dire. J'en ris plus souvent que j'en pleure. Je suis quelqu'un de l'intérieur. Peut-être ils croient que je suis calme, que je compte les étoiles au milieu de leur vacarme. Mais si un jour je dévoile les secrets de mon âme, tu as pris toute la place dans mon cœur. Voilà, c'est une prière de Saint Francis Cabrel. Mais je pensais à ça. Et peut-être que vous trouvez que c'est bizarre que je parle de ça parce que j'ai la réputation justifiée largement d'être un très grand bavard. Mais j'ai besoin de beaucoup de silence aussi et de solitude. C'est pour ça qu'après. Ça sort. Malheureusement pour vous. Non, mais je peux plus vivre sans silence et sans solitude parce que sinon je meurs. Je peux continuer de faire des activités, hein, mais ça va plus. Et en fait, on doit comprendre que le cœur de l'évangile, c'est Christ en nous. Christ est dans l'Église parce qu'il est d'abord en nous. Hein. L'Église, c'est qui? C'est nous, moi, plus moi, plus moi, plus moi. Hein, chacun qui dit ça, quoi. Et que la transformation de Dieu, elle n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais le contraire. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. au fond de nous, alors nous ne sommes pas Dieu, hein, nous sommes des créatures de Dieu, distinctes de Dieu, on ne va pas devenir Dieu, mais à l'intérieur de nous-mêmes, enfants de Dieu, créés par Dieu, lorsque nous devenons enfants de Dieu, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, lorsque nous sommes régénérés, c'est-à-dire lorsqu'on accepte que Christ vienne faire sa vie en nous par l'Esprit, l'Esprit c'est Dieu, hein, c'est Dieu trinitaire, je deviens le temple de Dieu. Et vous savez, dans le temple que les Juifs avaient, on y allait dans un certain sens. Hein, forcément, on arrivait de l'extérieur, on arrivait dans la cour du temple, le parvis, ça s'appelait. Et là, il y avait du bruit, du brouhaha, des gens qui étaient là, ça parlait, ça tchatchait. Et puis, il y avait tout un rituel. Et puis, on rentrait dans le lieu saint et puis le lieu très saint, où là, seulement un certain prêtre, à certains moments de l'année, rentrait pour un court moment, et puis c'était vraiment quelque chose de très, 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 très spécial. Et c'est pas dans la Bible, la tradition dit que quand le souverain sacrificateur rentrait dans cet endroit, le lieu très saint, on lui attachait une corde à la cheville. Parce que si des fois il faisait une erreur et qu'il était foudroyé par Dieu là-dedans, personne ne pouvait aller chercher le corps parce qu'il aurait été foudroyé aussi, quoi. Puis on tirait la corde pour le ramener. Hein. Mais ça montre à quel point cet endroit-là était secret, sacré, et on n'y rentrait pas. Ok, aujourd'hui c'est moi qui fais les sacrifices. Alors non, les gens qui rentraient là savaient que je rentre dans la présence de Dieu. Puis là, c'est le même Dieu qui a foudroyé les gens, qui a envoyé le déluge, et puis c'est aussi celui que je viens pour rencontrer. Hein. Alors pour nous, l'œuvre de Christ, ce qu'on appelle l'œuvre de Christ, sa venue, on va célébrer bientôt sa mort, sa résurrection, a fait qu'on n'est plus frappé par la condamnation. Mais ça n'a pas fait de Dieu mon gentil petit copain qui est là pour discuter et prendre l'apéro avec moi. Ça reste ce grand Dieu qui a créé l'univers, qui a tout mis ça en route. Mais aussi, il veut être mon ami. Et il y a cet énorme paradoxe qui est là, hein, entre ce Dieu tout-puissant et puis cette proximité, parce que Jésus, qui est Dieu, hein, qui nous dit « Celui qui m'a vu a vu le Père hein, », qui est venu enlever le risque qu'on soit foudroyé par la présence de Dieu, nous dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Hein, » parce que le serviteur, ce n'est pas ce que fait son maître, mais entre amis, on dit ce qu'on va faire. Et donc, on doit réaliser que le but de nos vies chrétiennes, nous sommes tous, il n'y a pas des spécialistes, hein, le clergé, etc., nous sommes tous appelés à être dans le temple de nos vies, ce sacrificateur très spécial qui a le droit de rentrer dans ce lieu très spécial pour aller servir Dieu. Servir Dieu, ça veut dire se tenir tranquillement dans sa présence et être à sa disposition. Et le cœur de nos vies chrétiennes, le réacteur de nos vies chrétiennes devrait se trouver là. Et tout ce qui se passe à l'extérieur devrait venir de là. Mais on vit tellement dehors qu'on sait tout juste que ça existe, cet endroit-là. Et puis c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui vont encore dans des réunions de prière, ça devient rare. Mais on n'aime pas le silence dans les réunions de prière. Hein. Si quelqu'un prie et puis qu'il y a 30 secondes où personne ne dit rien, on commence à sentir une certaine tension, une certaine nervosité. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui il va y aller? C'est moi qui vais y aller. Il a déjà prié pour ce sujet, je pourrais essayer celui-là. Non, mais celui-là, il a déjà dit. On doit apprendre à vivre ça autrement. Être tranquillement dans la présence de Dieu en silence et puis arriver à être, j'allais dire, détendu dans sa présence. Je n'ai pas besoin de parler, je n'ai pas besoin d'expliquer, il sait déjà. J'aime toujours quand on prie en tant que chrétien et qu'on cite la Bible à Dieu et qu'on lui donne les références aussi. Genre, au cas où il ne les retrouverait pas, où il ne s'en souviendrait pas, hein. Vous savez, ce genre de prière, « Seigneur, comme tu dis dans 2 Corinthiens 12, 14, parce que ta parole dit, Seigneur, que... » Dieu qui dit, bah, c'est gentil de me citer, mais je suis là, quoi, puis je la connais. Juste, tu ne peux pas te... Chut, là, calme, doucement, et puis on va rien dire. le langage est source de malentendus. Et on va rester tranquillement là. Et on va laisser la vie de Dieu infuser la nôtre. Ça, ce n'est pas à la place de l'étude biblique. Vous vous rappelez, dans le document qu'on vous a envoyé, on a dit ce qu'on visait pour cette année, c'était qu'on lise nos Bibles, qu'on les comprenne et qu'on les médite. Ce n'est pas à la place, mais c'est que la lecture, la compréhension, ça c'est un travail, il faut comprendre ce qu'on lit, donc il faut le faire. Mais la méditation nous permet de faire ce chemin depuis la cour, le lieu saint, jusque dans le lieu très saint, où on ne vient pas expliquer à Dieu ce qu'il doit faire et les courses qu'il faut faire, et qui doit guérir, et qui ne doit pas guérir, et qui est missionnaire. Ok, ça c'est, il faudra le faire après. Mais là, on vient juste passer du temps avec lui, et puis se mettre à sa disposition. Vous vous rappelez, je l'ai souvent cité, mais cette phrase, en tout cas on l'attribue à Mère Teresa, je crois que c'est elle quand même, parce qu'elle disait qu'elle commençait toujours sa journée par au moins une heure de prière. Et puis les gens lui disaient, ah bon, et qu'est-ce que vous dites à Dieu pendant cette heure de prière ? Ben rien, je l'écoute. Ah bon, et qu'est-ce qu'il vous dit Dieu pendant cette heure de prière ? Ben rien, il m'écoute. Et c'est ça, le point de départ. Et c'est pour ça que nos efforts à nous, et il y en a à faire, je vous promets que c'est les efforts les plus forts qu'il faut faire. C'est pour voler, entre guillemets, pour prendre ces moments-là. Alors, le problème, c'est que chacun, on a nos rythmes de vie, il y a les gens qui sont du matin, il y a ceux qui sont du soir, il y en a qui sont de la nuit, il y en a qui sont de ci, il y en a qui... On est tous très différents. Et quand on veut imposer une façon de faire ça, ben on arrive aux légendes évangéliques, genre, il faut faire son culte le matin. Alors, comme il faut faire son culte le matin et que les gens ne savaient pas quoi faire, on a inventé des petits lecteurs de livrets de machin truc. Alors, voilà, il y a quelqu'un qui a réfléchi à ma place. Aujourd'hui, je lis ce verset. Il y a même le commentaire, au cas où je n'arriverai pas à réfléchir. Je lis le commentaire. J'en écris, donc vous voyez que mais bon. Et puis, quand j'ai lu le commentaire et que j'ai lu le texte, tout en buvant mon café, je peux quand même faire une petite prière personnelle. J'ai un petit truc sur le cœur, je le dis à Dieu et je pars tranquille. J'ai fait mon culte avec Dieu. Alors, honnêtement, si tout le monde faisait ça, ça serait super. Parce que peu de monde fait encore ça. Donc, n'enlevons pas le petit reste. Je dis juste, on est loin de ce que Dieu veut pour nous. Beaucoup plus que ça. Mais ça peut commencer par ça, encore une fois. Parce que lire, comprendre, super, on nous aide, il y a des outils. Mais juste, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Et puis, il n'y a pas un résultat concret. On ne peut pas, vous savez, c'était bien, c'était pas bien, c'était... Non. Passer du temps avec quelqu'un, c'est passer du temps avec quelqu'un. Des jours, c'est comme ça. Des jours, c'est autrement. Des jours, on parle. Des jours, on ne parle pas. Des jours, on est de bonne humeur. Des jours, de mauvaise humeur. Mais on a passé du temps ensemble. J'ai un ami que j'aime beaucoup qui avait l'habitude de dire à la fin de chaque année, bien vécu, mal vécu, mais vécu avec Jésus-Christ. Et voilà. On va rentrer lentement. Alors, je vous donne deux textes, ou trois peut-être, mais vous avez plein à lire, mais je ne vais pas les lire, ça serait trop long. Du coup, vous pouvez méditer. Le premier, c'est dans 2 Pierre. 2 Pierre 1, 3 à 11. Sa divine puissance, donc la puissance de Dieu, nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. La piété, ce n'est pas la religiosité, Vous savez, on dit de cet homme, il était tellement religieux qu'on en a fait un pieu pour une clôture. Non. La piété, c'est juste l'attachement à Dieu, cette envie d'être avec lui. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Celle-ci, dans les promesses, nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale et la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Je ne m'attends pas à ce que vous ayez compris ou retenu cet enchaînement. C'est juste pour montrer que on a la foi, et à notre foi, on va ajouter, 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 mais pas ajouter des choses à faire, ajouter des choses qu'on vit avec lui et qui sont contenues dans sa divine puissance. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire. Hein. Il ne nous manque rien pour vivre ça. Et puis, si celui qui n'a pas ça est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Et si ces choses sont en vous et qu'elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas sans agir pour le royaume de Dieu. Je paraphrase un petit peu. Vous voyez que l'action, elle vient à la fin. On ne devrait pas dire on fait des choses pour Dieu, puis ces choses-là nous motivent, et puis en les faisant, on rencontre Dieu. C'est vrai que ça se passe comme ça aussi, hein. C'est vrai. Mais l'ordre normal, celui qu'on devrait chercher, tendre, c'est je dois aller faire un tour dans le cabanon au fond du jardin, celui où il n'y a personne, tout seul. Je vais passer du temps là avec Dieu, pas pour lui dire, juste passer du temps avec lui, dans le silence, dans la tranquillité, dans la méditation. Et puis, je suis incapable de l'expliquer, mais on ne ressort jamais pareil. Et moi, mon image à moi, je vous encourage à trouver, parce qu'on parle de choses qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas tangibles, qu'on ne peut pas... Et on a besoin, je crois, chacun d'entre nous, de trouver les images ou le vocabulaire qui nous permettent de les concrétiser dans notre esprit. Ce vocabulaire peut changer, évoluer, se développer. Hein. Pour moi, une de mes images qui me parle le plus de ces moments avec Dieu, c'est l'infusion. Je bois beaucoup de thé, alors c'est bien. Et chaque fois que je mets mon... Ouais, je ne mets pas les sachets, c'est pour ça que je mets mon thé dans ma théière, en fait. Hein. Et puis, je regarde l'eau changer. Et j'aime ça parce que à un moment, il est à la bonne couleur, quoi. Mais... on ne peut pas dire comment c'est arrivé. Quoi. Au début, on a toujours l'impression, surtout avec le thé vert. Le thé noir, il est un peu rapide. Mais le thé vert, c'est bien parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et à un moment, il a une belle couleur. Ben, quand on est dans la présence de Dieu, moi, c'est l'impression que j'ai. Je suis là, puis ben, il ne dit rien, je ne dis rien. Vous avez du mal à le croire, mais c'est vrai. Et puis, on est là, mais juste parce qu'on est bien, tranquille, dans l'eau chaude. Pas trop chaude, mais dans l'eau chaude. Et puis, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'est infusé. On a du mal à mettre des mots dessus, on ne va pas dire sortir de la... Dieu m'a dit ce matin de vous dire... Non, pas besoin de ça. Mais il s'est passé quelque chose. On a reçu de la force pour continuer. On a reçu de l'énergie pour aller de l'avant. On a reçu dont on avait besoin. Et d'ailleurs, un des signes... Je mélange un peu tout ce matin, mais tant pis, vous ferez le tri... Un des signes que je ne vis pas assez comme ça, pour moi hein, en tout cas, mais je crois que c'est valable pour beaucoup de monde, tout le monde, c'est quand je commence d'être fatigué. Je ne parle pas physiquement, fatigué physiquement, ben, il faut dormir, il n'y a pas de secret. Mais quand je suis spirituellement fatigué, quand j'ai l'impression que... ou pire, quand je commence d'être un peu amer. Ouais, je fais tout le temps ça et puis... Et les autres, ils font quoi? Ou il ne se passe rien? Ou il n'y a pas de résultat? Vous savez, hein? Et ça, c'est un signe que j'ai besoin de prendre plus de temps dans le silence avec Dieu. Parce que quand je fais ce que je fais par l'énergie qui vient de là, il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas de... Parce que j'ai reçu ce qu'il fallait pour le faire. Hein? On fait le plein d'essence avant de rouler. Alors, on peut mettre un jerrycan quand on tombe en panne. Et puis rouler jusqu'à la prochaine panne et aller chercher un jerrycan. On avance comme ça aussi. Hein. C'est toujours mieux que pousser la voiture. Mais l'idéal, c'est de faire le plein. Et puis quand il y a le plein, on roule. Hein. Et puis quand le rouge arrive un peu, il faudrait refaire le plein. Et puis d'apprendre à aller comme ça, dans la tranquillité, dans le silence, dans la méditation, dans le prendre du temps. Et ça... Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, et encore plus dans ce pays, je crois que c'est la Suisse, c'est le pays le plus chronophage que je connaisse au monde. Quoi. C'est impressionnant. Quoi. C'est un pays neutre, mais les conflits d'agenda, c'est la guerre. C'est pire qu'à Bagdad ou en Syrie. Quoi. Trouver un quart d'heure à trois ensemble, on dirait que c'est les 12 travaux d'Astérix. Quoi. Ouais. C'était pas Astérix, peut-être, mais ça fait rien. Il l'a fait aussi. Hein. Donc, chacun ses références. Voilà. C'est pour ça que laisser faire Dieu dans nos vies, c'est pas simple. Ça va demander beaucoup de choses. Ça va demander de s'asseoir et de se dire, bon, je fais quoi avec ma vie? Parce que le temps, c'est vrai, on a moins de temps qu'avant. C'est la première réponse que vous avez donnée. Mais en réalité, on a toujours 24 heures dans une journée. On a toujours le même nombre de minutes dans une heure, etc. Hein. Donc, on doit chacun, et je peux pas, j'ai pas le droit, mais je peux pas le faire pour quelqu'un d'autre. Mais je pense quand même qu'on peut avoir du temps si on veut. Faut, à un moment, il faut qu'on se le dise, quoi. Non, on a du temps. Alors oui, il y a 8 heures, 10 heures, 12 heures de travail, mettons, pour certains. Ça laisse encore des heures, quoi. Alors, moins. Et puis, on peut aussi apprendre à racheter le temps. C'est un conseil de l'apôtre Paul. Racheter le temps, car les jours sont méchants. Pas mauvais, mais méchants. Agressifs. C'est la traduction correcte. Et selon qui vous êtes, vous allez pouvoir sauver du temps d'une certaine façon. Mais on est tous différents là-dedans. Moi, je me concentre très rapidement et très facilement dans des moments très courts. Donc moi, ce qui me sauve, c'est que je peux, en 3 minutes, pouf, je peux m'isoler. Et puis, les gens ne peuvent pas faire ça. Ils ont besoin de 2 heures parce que sinon, ils n'y arrivent pas. Je ne vous dirai pas de faire comme moi. On est différents. Hein, j'ai d'autres problèmes, mais... Dans ce domaine-là, si j'ai très très peu de temps, je peux très très vite être oublié complètement tout et être... Mais chacun doit savoir comment il fonctionne et puis se dire, ben voilà, ben, c'est une question de tri. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. Sans légalisme, alors personne ne peut décider à votre place, attention, hein, ce qui est important pour le royaume de Dieu ou pas, ou... Non. Parce que peut-être pour quelqu'un, c'est en continuant son activité, je ne sais pas, de course à pied, de grimpe, de marche, c'est là qu'il rencontre Dieu, et puis c'est super. Pour d'autres, c'est en faisant autre chose. Il y en a qui arrivent en conduisant, il y en a qui aiment ça. Après, c'est clair que c'est difficile avec des écouteurs sur les oreilles ou certaines choses aussi avec... hein. Mais chacun va trouver, et puis on va... Voilà. Il faut que les choses aillent dans le bon sens. Hein. Je vais ajouter à ma foi... Et je vais laisser Dieu faire le reste. Et ça, c'est le pari qu'on a fait, entre guillemets, pari, pour notre vie communautaire aussi. Et c'est ce qui fait que notre vie communautaire est tellement ingérable. Mais on aime ça, hein, mais particulière. Et quand on parle avec des gens qui viennent, comme c'était le cas cette semaine, mais c'est quoi vos plannings? Comment vous faites? Vous avez quoi comme vision? La croissance de combien de pourcents pour l'an prochain? Comment vous voulez que je sache ça? J'en sais rien. Puis en plus, je n'ai pas envie de le savoir. Si, ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse dire à la fin de l'an prochain, on a tous fait des progrès dans notre communion avec Dieu. Ça, c'est ce qu'on voudrait. Mais je ne peux pas croire que si on vit comme ça, on ne témoigne pas. Ce matin, on a entendu Caroline. Moi, ça m'a fait très, très, très plaisir. Voilà. Elle vit avec Dieu et à un moment, ça sort ou dans un apéro. Hein. Alors, soit on aurait pu dire, ah ben, un bon chrétien, il ne reste pas à l'apéro le vendredi, puis il rentre chez lui, comme ça, il pourra méditer. Ben là, il fallait rester. Mais peut-être une autre fois, il ne faut pas rester. Il n'y a pas de règle, dans rien. Si, le mal, c'est simple. Hein, on ne se pose pas la question si on fait le mal. Hein. Mais en dehors de ce qui est clairement défini par la Bible, on ne tue pas, on ne vole pas, on ne ment pas, on ne triche pas, on n'abuse pas des autres, etc. En dehors de ces choses-là... Une fois c'est bien, une fois c'est pas bien, une fois c'est très bien, une fois c'est moins bien. Comment je sais? Ben, j'en sais rien, débrouillez-vous, hein, vous êtes grands. Non mais Dieu nous a créés comme ça, mais c'est tellement plus difficile que si on est là et puis qu'on vous dit, voilà maintenant pour l'an prochain, vous allez supprimer ça dans vos vies, ajouter ça et puis ça va donner ce résultat. Vous allez aimer, hein, c'est beaucoup plus simple et puis nous ça va être plus facile parce qu'on va pouvoir prévoir un peu les choses. Quoi. Mais on veut pas. Et je ne crois pas que Dieu veuille. Alors, il faut aussi assumer ce qu'on fait. On sait qu'en vivant comme ça, on pourrait se retrouver à un moment, ben, il n'y a plus personne ici, par exemple. Ce n'est pas grave. Ça ne changera pas qui est Dieu, ça ne changera pas grand-chose. Ça sera triste, peut-être, pour certains ou pas, mais ce n'est pas la question. On n'est pas là pour faire tourner une institution, une entreprise ou quoi que ça. Hein. On est là pour avancer avec Christ. Et c'est pas simple, c'est désécurisant, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, comment, où, pourquoi. Mais en même temps, ça ne se fera pas sans détermination. En attendant que le vent fasse tomber les fruits, il va en tomber quelques-uns. Ouais. J'appelle ça tomber dans les pommes. Non, c'est les pommes qui nous tombent dessus. Mais ouais, effectivement, comme ça, il ne se passera rien. Mais on doit être déterminé à laisser Dieu faire. Et ça va transformer nos vies. Et puis, l'avantage qu'il y a, c'est que lorsque quelque chose se passe et qu'on vit comme ça, c'est pas difficile et c'est plus de la fausse humilité de dire c'est Dieu qui l'a fait. Parce qu'on le sait. Parce qu'avant, il n'a pas fait et ça ne se faisait pas. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Moi, quand je suis arrivé parmi vous, je termine avec ce petit témoignage personnel, j'avais eu la chance, le privilège de vivre dans des églises qui allaient bien et qui grandissaient sans qu'on y fasse rien. Et je pensais que je savais comment il fallait faire pour que les églises grandissent, parce que j'avais toujours vécu comme ça. Quand j'arrivais quelque part, les églises se développaient, grandissaient, avaient d'autres activités, plus de membres, etc. Et puis, je suis arrivé à Moutier. Merci Seigneur de m'avoir amené ici. Ça a un peu, tout petit peu, pas assez, mais aidé à me délivrer de mon orgueil. Hein. Non, je ne sais pas faire grandir une église, non. Non, je ne peux pas faire grandir une église, non. Alors avant, je disais pareil, hein. Je disais, c'est pas moi, c'est Jésus. Mais ça marche quand je suis là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Jésus et moi, nous avons fait que. Hein. Non, pardon, oui, j'ai dit Jésus en premier parce que je suis bien éduqué, hein, mais voilà. Hein. C'était l'escargot à côté du taureau de corrida, vous savez. Nous autres bêtes à cornes. Hein. Et puis c'était super parce que ben jusqu'à aujourd'hui, quand les gens me disent alors ton ministère à Moutier, comment ça se passe? Bien. Ah bon, qu'est-ce que vous voyez? Ben, d'une église de 80 personnes, j'ai pu faire une église de 30, c'est pas mal, hein. Les gens me regardent, ils croient que je plaisante. Je dis, ben non, c'est tout. Ah, mais les 30 qui restent, ils sont bien. Hein? Non, on est plus de 30. Mais honnêtement, c'était bien. Parce qu'au bout d'un moment, on réalise, mais en fait, si je tiens à ma réputation, il y a un souci, quoi. Hein? Alors, c'est bien, Dieu m'a fait un autre traitement pour que j'ai plus de soucis à ma réputation. J'en ai plus, je sais pas ce que c'est. Mais j'aime être avec mes frères et sœurs qui m'encourage à prendre ce temps avec Dieu. Et puis ça, dans tous les petits groupes qu'on a, dans nos discussions, dans nos rencontres, je crois qu'on doit creuser ça ensemble. On ne va pas dire maintenant il y a une nouvelle formule, on va tous chercher Dieu comme ça de telle heure à telle heure parce qu'il faut et faire un nouveau plan, sinon c'est toujours pareil. Mais je prie et on prie et nous voulons ensemble être toujours plus déterminés. Parce qu'en même temps, ça ne va pas se faire tout seul, ça ne va pas se faire si on ne le veut pas, ça ne va pas se faire si on ne se bat pas pour que ça se passe, mais ne nous battons pas au mauvais endroit. Ne nous battons pas pour faire plus, pour être meilleur, pour être mieux, pour que Dieu nous aime. Battons-nous pour voler du temps, du silence, de la communion, de la méditation, de la lecture, de la prière, la vraie, pas les listes de courses, discussion avec Dieu, et nos vies vont changer encore plus. Et ça ne pourra pas ne pas avoir d'impact autour de nous, ce n'est pas possible, je ne peux pas le croire. Ou alors, on pousse le pari jusqu'au bout et Dieu n'est pas réel alors. Et puis, on fait tous du semblant et puis il faut tout arrêter. Hein. Mais je ne le crois pas. Donc, je crois que ça va avoir des répercussions, mais pas forcément dans le sens où cette salle va se remplir ou qu'il y aura plus de personnes. Ce n'est pas ça notre problème, mais ça va porter du fruit pour la gloire de Dieu. Des gens vont comprendre, des gens vont grandir, des gens vont être guéris, des gens vont être soulagés parce que c'est ce que Christ est venu faire. Hein. Et on a besoin de ça, et puis on peut le faire ensemble. Seigneur, merci pour la façon que tu as choisi de faire les choses, c'est pas la nôtre. Merci en même temps pour le repos qu'il y a à se laisser aller en toi, à se cacher en toi, à te laisser agir. Et puis, on veut vivre par la foi, c'est-à-dire t'incorporer dans chaque moment, dans chacune des pensées, dans chaque chose de nos vies. Et que toi, tu fasses ce que tu as à faire, Seigneur. Que ta vie imprègne la nôtre et qu'on en soit transformé. Et puis merci parce que chaque fois qu'on échoue, tu ne nous condamnes pas, tu ne nous accuses pas. Mais tu nous encourages juste à nous relever, à continuer, Seigneur. Aide-nous à mettre les bonnes priorités, à mettre les choses dans l'ordre. le tien, et puis que tu nous donnes la force et le courage pour marcher dans ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Merci pour la joie d'être ensemble ce matin, pour tout ce que tu fais, et pour encore tout ce qu'on a devant nous. Amen.